retrouver ce mardi 1er octobre sur les ondes de Radio Galère, à l'orée d'un mois qui va être, qui s'avère, vous allez l'entendre en fonction de tout ce que je vais vous raconter, un mois extrêmement agité avant l'élection présidentielle du 4 novembre aux États-Unis, qui risque de changer beaucoup de situations internationales. Et je remercie Sidi de se retrouver finalement de l'autre côté de la vitre pour assurer, comme il sait le faire, c'est-à-dire très bien, la technique de cette émission. Alors je vais commencer par ce qui est le plus important pour la semaine passée, parce que c'est une activité qui ne s'exerce que de temps en temps. Je veux parler de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Alors il s'agit, vous en avez probablement entendu parler, mais pas de tout, parce qu'il s'y passe beaucoup de choses, à la fois dans la salle elle-même de l'Assemblée générale, et puis dans les coulisses, c'est-à-dire c'est l'occasion, puisque c'est le grand rassemblement de tous les diplomates, voire de chefs d'État, de se rencontrer en réunion spécialisée, genre réunion du mouvement des non-alignés, réunion du G20, des rendez-vous individuels de chefs d'État ou de chefs de gouvernement à chefs de gouvernement, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent, puisque en fait c'est le grand rassemblement diplomatique du début de l'année scolaire, comme on dit, qui a lieu tous les ans. Alors c'était donc la 79e édition, et donc on fêtera en 2025 la 80e édition de l'Assemblée générale de l'ONU, puisque l'ONU a commencé son activité en 1945. Longue, longue histoire. Et qu'est-ce qu'on peut dire, alors je ne vais pas rentrer dans toute cette longue histoire, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, vu le climat et tout ce qu'on a pu entendre à l'occasion de cette 79e Assemblée Générale ? Bon, alors je fais un commentaire facile parce que d'autres que moi l'ont fait, c'est-à-dire que l'ONU n'est pas en très très bonne santé. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'elle se partage entre des ambitions à long terme avec des programmes, on a eu les objectifs du millénium. Là, dans les deux jours précédents, l'Assemblée générale elle-même, le secrétariat général a proposé un programme d'action pour la décennie, alors avec tout ce qu'il faut d'écologie, de respect de l'humanité, de respect de la nature, etc. Mais en fait, ce genre d'exercice a de la peine à rentrer dans la réalité, puisqu'il est assez largement contredit par les activités concrètes de une partie des acteurs au moins, qui ne font pas ce qu'il faut pour que l'humanité soit paisible, développée et unie dans un horizon un peu plus éloigné que l'année prochaine. Et donc là, on a déjà une espèce de contradiction fondamentale, c'est-à-dire l'ONU qui se sent investie d'une mission, et elle a cette mission depuis les origines, et elle est dans la charte, c'est-à-dire de promouvoir la paix et le développement et l'égalité entre les hommes, quelles que soient leurs conditions, leurs croyances, leur statut, etc. Bon, et puis se trouver face à des situations concrètes, immédiates, où la plupart des objectifs ambitieux, raisonnable et même admirable de la Charte des Nations Unies ne sont pas respectés. Et j'utilise un terme volontairement adouci, sont même, dans un certain cas, piétinés allègrement. Enfin, allègrement pour celui qui piétine, pas pour celui qui est piétiné d'ailleurs, l'expression est malheureuse. Bon. Et cette 79e Assemblée Générale a été particulièrement révélatrice de cette contradiction considérable entre les objectifs à long terme et les objectifs affichés dès 1945 à l'ONU, et puis la réalité du monde contemporain et des affrontements qui s'y produisent, qui est à un niveau de contradiction rarement atteint. Et c'est là-dessus que je vais un peu m'arrêter. Alors il y a ceux qui, dans ces assemblées générales, je vais donner rapidement quelques noms, du type Joe Biden et Emmanuel Macron, font comme si tout allait bien dans l'actualité, on parle de cesser le feu, d'arrangements, de négociations, etc. Et en pratique, ça ne correspond absolument pas, j'y reviendrai, aux actions concrètes de ces chefs d'État, mais qui sont là pour la galerie, pour la grande opinion publique, en disant « Regardez ces chefs d'État responsables qui pensent à l'avenir sereinement, etc. » Il ne s'agit pas du tout de ça, il s'agit d'une mystification destinée aux relations publiques et à la communication, à la com, comme on dit, pour faire croire qu'on a affaire à des chefs d'État raisonnables. C'est loin d'être le cas, on y reviendra sur un certain nombre de points précis. Alors ça, c'est d'un côté. Ceux qui disent, ben c'est un peu l'atmosphère, on dit, ça se dit, c'est la grand-messe. Alors on écoute le prêche, alors toujours dans les grand-messes, pour ceux qui en ont vécu, le prêche est toujours apaisant, tourné vers l'avenir, chaleureux, etc. Bon, et donc ça n'avance pas à grand-chose. On sort là comme si on avait passé un bon moment d'apaisement. Et puis en fait, voilà, la réalité se rappelle très très vite à votre bon souvenir. Ce qui s'est dit par ailleurs a été, alors il y a un certain nombre de critiques et qui ont été faites, alors je reviendrai sur les principales, mais on a senti qu'il y avait des tensions ici et là. Je vais prendre quelques exemples au passage. Vous avez le représentant du Mali qui monte à la tribune et qui s'en prend à l'Algérie et à la France. Alors, comment ça se fait ? Là, ça se fait que, vous vous souvenez peut-être que cet été, il y a eu des embuscades menées au Nord Mali, donc contre l'armée malienne et contre ses adjoints, disons, la milice russe d'origine, l'origine Wagner transformée en corps de l'armée russe sous direction d'officiers russes. Et donc, à cette occasion, il s'est avéré que travailler avec les autonomistes Touareg, qui ont des accords de bonne intelligence, disons, de tolérance relative entre l'Algérie, avec l'Algérie, et la milice ACMI, donc les milices djihadistes qui civilisent dans le Sahara, qui ont fait qu'en fait, c'est la façon de travailler des milices djihadistes appuyées par les services secrets ukrainiens et par les militaires ukrainiens qui ont tendu une embuscade sévère à l'armée malienne et en particulier à le groupe militaire russe qui était là. Ça voulait dire que, effectivement, la tolérance qu'il y avait du pouvoir algérien par rapport aux Touareg, qui veulent être un peu autonomes dans la zone où ils vivent, c'est-à-dire dans la zone nord du Sahara, disons plutôt au sud de l'Algérie, n'avait pas été respectée, en ce sens que les Touareg étaient tombés sous l'influence à la fois des djihadistes et des services de renseignement ukrainiens et des militaires ukrainiens. Et donc, on les avait impliqués dans un combat qui n'est pas tout à fait le leur. Et c'est ça que le représentant malien a souligné en disant à l'Algérie, écoutez, vos accords avec les Touareg, c'est bien, mais quand les Touareg sont pris en main par les services secrets ukrainiens et par les djihadistes, on n'est plus d'accord. Et donc là, il faut qu'on revoie la question et revoyez votre politique à ce sujet-là. Ne mélangez pas les Touareg, avec lesquels on peut avoir des discussions sur une relative autonomie dans la zone où ils vivent, c'est-à-dire en plein désert, et les services secrets ukrainiens, et donc, qui, eux, sont là pour un objectif géopolitique beaucoup plus large, c'est-à-dire dans le combat qui se livre entre l'Occident et ses adversaires stratégiques, la Russie et la Chine. Ça, c'était le type de remarque qu'on a entendu, donc il y avait une certaine tension dans le ton. J'en prends un deuxième, qui est moins connu, mais qui est aussi assez révélateur. Il y a eu une agression verbale du président de la République du San Salvador, qui est une toute petite république du Centre-Amérique, contre le Venezuela et contre son président Maduro, qui vient d'être réélu et dont l'élection régulière a été confirmée par le tribunal compétent vénézuélien, et qui n'est plus discutée, à tel point d'ailleurs que le personnage qu'on avait montré un peu quelques jours comme ayant vraiment gagné les élections vénézuéliennes, M. González était tellement sûr de son coup et de son mensonge qu'il s'est enfui en Espagne où il a demandé l'asile. Bon, donc effectivement, le sujet, l'espèce de soufflet s'est dégonflé, on ne parle plus de la régularité des élections au Venezuela. Il n'empêche que M. Bukele, le président du Salvador, s'en est pris à M. Maduro, qui déteste. Alors qu'a fait M. Bukele ? Alors M. Bukele arrive auréolé. Quelle est son auréole ? Comment il s'est fait une auréole ? Alors, il s'agit d'un monsieur qui est nouvellement salvadorien, c'est un enfant de l'immigration extérieure au San Salvador, qui est passé par des mouvements politiques de gauche, qui est passé de plus en plus à droite et qui maintenant s'avère être un véritable dictateur. Alors, il a une certaine reconnaissance internationale parce que le San Salvador était un pays totalement gâté par la multiplicité des milices, vendeurs de drogue, de cocaïne, etc., qui faisaient la loi. C'était un des pays considérés comme un des plus dangereux du monde. On s'y tuait au coin des rues. Enfin, les gens hésitaient de sortir de chez eux. Ils allaient acheter leur pain à la boulangerie à 50 mètres de chez eux en voiture pour ne pas être dans la rue tout seul. Parce qu'il y avait toujours un risque de balles perdues. Bon. Alors ça, Et ça, il s'en vante, et c'est, tout le monde le reconnaît, tous les journalistes, tous les diplomates qui s'en posent là. Monsieur Bukele a utilisé la manière forte, c'est-à-dire qu'il a éliminé l'insécurité. Ceci étant, il a dans le même temps rempli les prisons dans un niveau et dans des conditions assez inquiétantes, ce qui fait qu'une fois qu'il est au relais de ce succès, disons de super flic, appelons ça par son nom, sa vision politique n'est pas très très claire, et s'il applique ces méthodes-là à la gestion de la société, à son économie qui est extrêmement fragile, aux rapports sociaux qui sont un peu atténués puisqu'il n'y a plus le risque de mourir dans la rue d'une balle perdue tous les matins, mais la brutalité du personnage fait qu'on ne sait pas ce que ça va devenir le San Salvador. Si ce n'est tombé, il a déjà commencé à l'annoncer, dans l'orbe des intérêts américains, c'est-à-dire que, j'essaye d'expliquer, l'intérêt d'un investisseur des États-Unis, une entreprise qu'elle soit producteur de bananes ou de tout ce qu'on veut d'autre, c'est quand même que son propre personnel, il y a toujours un encadrement de la boîte qui est sur place, il y a toujours quelques techniciens, il y a toujours un risque. Enfin, une entreprise multinationale ne veut pas que les quelques cadres qu'elle envoie ou les personnes qu'elle emploie sur place qui font partie des couches un peu évoluées et diplômées de la société risquent leur vie tous les matins. Donc il y a un climat de sécurité, ou j'allais dire plutôt un climat d'insécurité qui fait qu'à un moment donné, l'investisseur dit « c'est plus possible, je ne peux pas travailler dans ce pays, on y meurt trop facilement et les tueurs en font la loi ». Donc, de ce point de vue-là, la note dans l'opinion internationale et dans l'opinion salvadorienne de M. Bukele, elle s'est améliorée, il a une très très bonne note, et les investisseurs peuvent dire « ah, on peut à nouveau travailler ». Et il a très clairement dit que les investisseurs qu'il attendait, ce n'étaient pas des investisseurs chinois, c'était des investisseurs des États-Unis. Et ce qui l'a amené, et vous voyez la logique de sa position, à s'en prendre à M. Maduro, devant l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se demandait qu'est-ce que ça voulait dire. Ben, c'était très simple, M. Bukele, auréolé de son succès de super flic, disait à l'Assemblée générale, il faut faire la peau à M. Maduro, parce que c'est pas rien d'autre de ce qu'il a dit n'est déformé par mon expression. Faire la peau à M. Maduro, c'est-à-dire il a exprimé la volonté et la politique des États-Unis à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies en s'en prenant à un autre chef d'État latino-américain. Ça donne une idée quand même du climat, c'est-à-dire des tensions. Alors il y aura d'autres dossiers sur lesquels je pourrais m'arrêter, mais des tensions qui existent. Mais évidemment, le sommet a été atteint par Benjamin Netanyahou. Et le voilà arrivé à la tribune, comme il sait le faire avec deux schémas. Un schéma du mal et un schéma du bien. Alors un schéma dans la main gauche, le schéma du mal, et dans la main droite, le schéma du bien. Alors le schéma du mal, c'est tout noir. C'est les islamistes qui ont pris le pouvoir et qui ont chassé Israël de la terre où il s'est installé. Alors ça, c'est le scénario catastrophe. C'est diabolique, c'est le diable. Et de l'autre côté, il y a le bon Dieu. C'est Israël qui s'est étendu sur toute la région, comme ils disent dans les textes, depuis le Nil jusqu'à l'Euphrate, en allant même un peu loin vers l'intérieur, pourquoi pas aller jusqu'à Bagdad. Et là, alors effectivement, là c'est le bien. Alors voilà M. Netanyahou qui arrive dans une Assemblée générale des Nations Unies, les Nations Unies dont l'objectif est la paix, et qui dit voilà, je vais détruire tous ceux qui sont dans le schéma noir, et je vais installer mon schéma à moi, qui est le schéma du bien, en détruisant tous ceux qui sont sur le schéma noir. C'est exactement ça le sens de son dessein. Et il ajoute, pour bien montrer ce qu'il est venu faire, il se met à parler de l'ONU. Alors l'ONU, lui, quand même, a la grande amabilité de lui laisser tenir ce genre de propos, qui est un propos qui est, à chaque mot qu'il a prononcé, il est en tort par rapport à la Charte des Nations Unies. Mais il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il dit que cette ONU, où il vient faire son discours de propagande meurtrière, puisqu'il s'agit bien de dire d'éliminer tous les régimes musulmans, qu'ils soient chiites, sunnites ou tout ce qu'on veut, hein, il s'agit bien d'éliminer donc tous les autres régimes existants. On pense évidemment au Liban, j'y reviendrai, on pense à la Syrie, on pense à l'Égypte, enfin, ils sont tous, et y compris, alors le diable, le grand diable parmi les petits diables, j'allais dire, l'Iran, qui est au centre des crises et des cauchemars de M. Netanyahou. Mais une fois qu'il a prononcé son petit discours et prononcé sa politique avec ce petit schéma simplifié, il s'en prend à l'ONU elle-même. C'est-à-dire qu'il s'en prend à ceux qui l'ont invité, à une organisation dont il fait partie quasiment pas tout à fait dans les membres fondateurs, mais dans les membres de la première génération, puisque Israël est rentré à l'ONU en 1948. Et voilà ce qu'il dit. Il dit à l'ONU. « Je vous le dis, jusqu'à ce que l'État juif soit traité comme les autres nations, jusqu'à ce que ce marécage antisémite soit asséché, l'ONU sera considérée par les gens justes, hein, référence biblique, comme rien de plus qu'une force méprisante. » Et il évoque ensuite les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, qui sont d'ailleurs toujours pas émis. Hein, bon, donc ils ont été annoncés pour faire frémir dans les chaumières, mais ils ne sont pas émis. Alors, les mandats de la Cour pénale internationale sont de l'antisémitisme pur et simple, émis au mépris de la justice internationale. Voilà ce qu'ose dire Netanyahou, c'est-à-dire que les mandats de la Cour pénale sont de l'antisémitisme pur et simple, encore qu'ils n'aient pas été produits. Et alors, il fait référence à la justice internationale et il oublie, bien entendu, parce que c'est un caillou dans sa chaussure, il oublie de mentionner la Cour internationale de justice. Car l'avis rendu par la Cour internationale de justice sur la colonisation de la Palestine est limpide, puisque non seulement il dit que la Palestine est colonisée par Israël, mais en plus, elle exige plutôt, cette Cour internationale de justice, que Israël se retire, c'est-à-dire laisse la Palestine vivre et rende la terre aux Palestiniens. Alors ça, évidemment, il ne l'a même pas mentionné parce que ça ne peut pas sortir de sa bouche un propos pareil. Il peut simplement faire des propos, hein, assécher le marais, antisémitisme. Enfin, on connaît cette rhétorique. Et voilà ce que M. Netanyahou vient dire à l'Assemblée générale de l'ONU. Donc il faut le faire. Vous êtes dans une assemblée qui est d'un organisme qui est là pour la paix entre les peuples. Et vous venez de dire, enfin vous venez d'insulter l'ensemble des gens qui sont devant vous, hein, puisque marécage antisémite. Rendez-vous compte. Bon, et il y a le président de séance, ni le secrétaire général des Nations Unies sont venus lui dire « Tais-toi, qu'est-ce que tu fais là? Si tu n'es pas content, démissionne de l'ONU, rentre à Tel Aviv et laisse tout tranquille. Hein. Tu viens faire un discours de guerre, un discours où tu vas humilier, insulter cette institution dont le but initial reste la paix, but qui est partagé par la majorité des États membres, et tu viens dire que c'est un marécage antisémite. Hein. Donc tu es déplacé. Alors ça, c'est que des paroles. Le problème, c'est que ces paroles, quand elles se traduisent, alors ça se passe le jeudi, quand ça se traduit, alors ça se passe après qu'il y a eu, en début de semaine, l'opération sur les beepers qu'on connaît, sur lesquels on s'est déjà attendu, et ça se passe la veille du jour, ça se passe la veille du jour où Israël, je reviendrai sur la signature, où Israël envoie des bombes perforantes, hein, de ce qu'on appelle les bunker busters dans le langage américain, donc envoie des bombes sur ce qui est connu comme étant le siège de la direction du Hezbollah qui était en réunion de sommet pour tuer le maximum de dirigeants du Hezbollah qui étaient réunis. Alors il faut savoir que donc, c'est des gros moyens militaires et donc M. Netanyahou annonce que de toute façon il a raison, que c'est les autres qui sont des antisémites et tout, annonce qu'il méprise l'ONU, et pour bien montrer qu'il la méprise, il joint l'acte à la parole, c'est-à-dire que dès le lendemain, il va tuer à la fois des civils, beaucoup de civils, puisque la bombe qui a tué Nasrallah et qui a détruit donc une partie de la ville autour de ce siège du Hezbollah, la bombe va tuer évidemment beaucoup de civils, parce qu'on ne fait pas de détails quand on envoie ce genre de bombes qui font d'énormes cratères dans la ville, hein, on sait bien que ça va faire des dégâts alentour. Mais ça ne compte pas pour M. Netanyahou. Donc d'un côté il dit « je crache », hein, je dis le mot « je crache » sur ce marécage antisémite, et je le méprise tellement qu'il peut parler de la paix pendant autant d'années qu'il veut, ça fait déjà parce que 80 ans qu'il parle de la paix, moi je fais la guerre quand je veux, comme je veux, et il ne m'arrive rien. Parce que, sous-entendu, Et ça, tout le monde peut le comprendre. Tout ce que l'ONU a essayé de faire pour dire à Israël « calme-toi, fais ci et ça », Israël n'a jamais respecté aucune des injonctions de l'ONU. Donc, il vient afficher son mépris, il vient dire, et on le comprendra dès le lendemain, « je vais continuer à faire la loi et à être le criminel de guerre que personne n'arrête ». Et ça se passe. Et bon, ma foi, on ne va pas vous dire qu'il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose de très grave. On a un État membre de l'ONU qui est venu humilier l'ONU verbalement et l'humilier politiquement le lendemain en disant « je fais ce que je veux, je tue qui je veux ». C'est ça qui est très très important. Et ça me renvoie à propos d'un personnage que vous connaissez peut-être pas tous, mais qui est un personnage intéressant, qui s'appelle Ralph Nader. Ralph Nader, c'est un vieux militant des États-Unis qui s'est occupé surtout de la défense des consommateurs. Il s'est présenté quelques fois, bon, il n'a jamais passé, bien sûr, aux élections présidentielles, mais c'est un monsieur respectable qui connaît les États-Unis, qui doit avoir 60 ou 70 ans maintenant. Et il s'est exprimé. Et voilà ce qu'il a dit tout de suite le soir du 28 septembre. Étant donné la destruction délibérée par Netanyahou d'un certain nombre de grands immeubles d'habitation à Beyrouth avec des bombes anti-bunker de fabrication américaine qui ont fait des centaines de victimes civiles, il est important de rappeler deux points d'histoire. Écoutez bien, parce que c'est un monsieur qui ne parle pas en l'air. En 1978, l'analyste militaire le plus éminent d'Israël, Zev Shipp, a résumé les remarques du chef d'état-major Mordecai Gour comme suit. Ouvrez les guillemets. L'armée israélienne a toujours frappé les populations civiles délibérément et constamment. L'armée n'a jamais fait la distinction entre les cibles civiles et militaires, mais a délibérément attaqué des cibles civiles. Et il poursuit. L'ancien ambassadeur de l'ONU et ministre des Affaires étrangères, Abba Eban, a écrit à propos d'Israël, sous le Premier ministre Menahem Begin, qu'Israël, ouvrez les guillemets, inflige sans raison toutes les mesures possibles de mort et d'angoisse aux populations civiles, dans un état d'esprit qui rappelle des régimes que ni M. Begin, ni moi, n'aurions mentionnés par leur nom. Vous avez bien entendu. Depuis 1978, et je pense qu'il l'avait déjà en tête avant, ça veut dire un civil ou un militaire, pour nous, c'est la même chose. C'est ce qui se confirme tous les matins à Gaza. C'est ce qui se confirme au Liban. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la différence. Ça veut dire quoi? Ça se traduit par un mot. Il ne s'agit pas de mener la guerre. Il s'agit d'éliminer un peuple. J'insiste. Alors on vous dit, ah le génocide, mais c'est écrit, c'est pas simplement écrit depuis l'année dernière, c'est écrit en 1978, l'armée israélienne a toujours frappé les populations civiles, l'armée n'a jamais fait la distinction entre les cibles civiles et militaires, mais a délibérément attaqué des cibles civiles. Il s'agit bien de génocide programmé, ça date pas de Gaza, ça date, on est déjà 30 ans avant. Et c'est en cours. Donc ça veut dire que c'est ancré dans la vision du sionisme qui est aujourd'hui au pouvoir, avec ses éléments les plus radicaux, c'est-à-dire qu'il s'agit bien d'éliminer tous les Palestiniens et tous les Arabes alentours s'ils les soutiennent. Bon. Alors il fallait rappeler ça, et ça, on peut dire, alors on peut être un chef d'État ou un chef de gouvernement comme Netanyahou, venir dire à l'ONU, je suis membre de l'ONU et je méprise l'ONU et je fais ce que je veux depuis 1948, et en fait dire, oui je vais continuer, puisque ça fait partie de ma stratégie, à éliminer non pas les militaires qui sont en face de moi, mais tous les civils qui ne sont pas sionistes. Ça, on en est là. Alors, on en est là et ça implique une réflexion sur ce que c'est que cette ONU. Une ONU qui accepte ça, avec tous les précédents que je vais vous citer, 78, c'est pas hier matin. Une ONU qui accepte ça, qui accepte de se faire mépriser en permanence par les États-Unis, puisque les États-Unis sont le principal complice de Netanyahou, où Netanyahou est le principal complice des États-Unis, on peut retourner la phrase dans les deux sens, une institution qui est là pour la paix et qui accepte que ce genre de propos soit mené et que cette politique soit conduite sans discontinuer depuis 40 ans, cette institution ébranlante, c'est branlant, puisqu'en fait, un de ses objectifs est méprisé par la première puissance mondiale, et méprisé concrètement par Israël sans arrêt depuis 1948, et cette institution peut faire des tas de discours sur les objectifs du millénium, la paix, etc. Cette institution se ridiculise. C'est ridicule. Alors, j'aimerais pas, moi, être dans la peau de M. Guterres quand il entend tout ça, parce qu'il est à la tête d'un marécage antisémite que M. Netanyahou va assécher. Est-ce que... Enfin, je ne sais pas quel est le sens, quelle dignité d'homme à M. Guterres, mais ça mériterait qu'il arrive et qu'il coupe le micro. Vous avez rien à faire ici. On ne vous veut plus. On n'en est pas encore là. Mais il faudra bien un jour que ça vienne. Alors, ça viendra comment ? Et ça va m'amener à dire quelques mots sur la réforme nécessaire de l'ONU, parce que le discours que je vous tiens, d'autres le tiennent peut-être d'une façon moins radicale, mais c'est vrai que ces derniers événements font ressortir que l'ONU est dans une impasse, au moins sur le dossier de la Palestine, et sur un certain nombre d'autres aussi, mais particulièrement sur celui-là. Et l'ONU paye une espèce de péché originel, j'utilise le mot avec des guillemets, péché originel, parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé en 1947 à l'Assemblée générale de l'ONU ? Alors je rappelle, 1947, il y a une cinquantaine de membres à l'ONU, les décolonisations sont à peine commencées, et donc on est dans une situation où effectivement l'ONU va décider quelque chose qui est un espèce de ver qu'elle a mis dans le fruit palestinien, ou dans le ver du fruit sioniste. C'est-à-dire que l'ONU, qui prend conscience qu'effectivement, il y a des colons sionistes qui sont arrivés en assez grand nombre, qui ont acheté des terres, qui se sont installés depuis les années 1920 à peu près, l'ONU prend conscience qu'effectivement, il y a un problème de rapport entre un futur État sioniste et un futur État palestinien, et fait un découpage. Et c'est là que je dis le ver est dans le fruit. Parce que ce découpage qui se fait sur la base d'une population donc sioniste, pour faire simple, de 45% des habitants de cette zone palestinienne, ce découpage se fait sur la base d'un partage du territoire inégal. C'est-à-dire que dès l'instant où l'ONU donne la majorité du territoire, soit 55% du territoire de la Palestine mandataire, comme on dit, à 45% de la population, l'ONU a mis en place les conditions du drame qui se poursuit de façon ininterrompue depuis 1948. Vous donnez aux minoritaires la majorité du terrain. Et donc, vous avez spolié d'entrée les Palestiniens d'une partie de leur terre. La seule issue, mais l'histoire ne se refait pas, c'était de dire au pire 50-50, hein, moitié-moitié, pas plus. Mais donner plus de territoire à celui qui est minoritaire, c'est engendrer la crise ininterrompue qui est suscitée par la création d'Israël dans cette région-là du monde. C'est voulu, c'est ce que les États-Unis ont imposé, c'est ce que l'ONU de l'époque a imposé. Certains pays n'ont pas voté, ont même voté contre. La Grande-Bretagne, qui connaissait un peu la musique, s'est abstenue. Et les pays voisins qui ont pu parler, je pense à la Syrie entre autres, se sont opposés à ce partage. Donc n'oublions jamais que sur la question palestinienne, c'est l'ONU qui a fait le premier faux pas d'importance. L'erreur initiale et qui a mis en cause toute la dynamique qui se développe sous nos yeux. Dynamique mortelle, hein, c'est chaque fois, les minoritaires ont le droit, les civils sont tués comme les militaires et tout ça, cette dynamique est en cours. Alors la réforme de l'ONU, je ne vais pas m'attarder là-dessus, c'est pas moi qui la ferai, mais elle est nécessaire et elle est reconnue comme un objectif. Alors il y a beaucoup de gens qui s'agitent en disant il faut augmenter la représentation au Conseil de sécurité. Et alors il y a qui le Japon, qui l'Allemagne, qui le Brésil, qui l'Inde disent je voudrais rentrer au Conseil de sécurité. Là, il s'agit d'un jeu de puissants qui veulent arriver à la table des puissants. C'est pas intéressant. Le problème qui se pose, et je le développerai à une autre occasion, et je le développerai par qui, c'est d'essayer d'instaurer un début de démocratie internationale. C'est-à-dire, dans les principes de l'ONU, c'est tous les États se valent, petits ou grands, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur religion, quel que soit leur niveau de richesse. Bon. À partir de ça, dès l'instant où on a intégré ça, il faut que le système de décision de l'ONU corresponde à cette approche démocratique en disant il faut effectivement que les décisions importantes de l'ONU ne soient pas bloquées quelque part par le représentant des États-Unis comme il le fait depuis 80 ans, mais qu'il y ait une majorité de pays membres qui disent, alors la majorité peut être débattue, ça peut être 75%, 80%, une majorité d'habitants de la planète, etc., prennent une décision, c'est-à-dire comme le ferait un conseil municipal, tout simplement, qu'il y ait un début de démocratie au sein de l'ONU. Bon, je ne développe pas plus, mais c'est là l'idée qui ne ressort pas, parce qu'en fait, les puissants sont bien contents de régler les affaires entre eux. Mais vous ne pouvez pas à la fois être à l'ONU en disant tout le monde se vaut, les pays se vaut, petits et grands, etc., et dire finalement il y a quelques grands chefs qui prennent les décisions pour les autres. Alors c'est d'autant plus caricatural que nous sommes citoyens d'un pays qui se prend comme un des grands chefs et qui ne l'est évidemment pas. Hein, parce que le rôle de la France dans ces opérations de l'ONU, c'est le rôle d'une annexe des États-Unis qui change un peu de discours ici et là, mais c'est tout. Voilà. J'en termine sur ce thème de l'ONU, sur lequel on reviendra, mais qui est riche et que cette Assemblée générale a particulièrement souligné, puisque le discours de Netanyahou est d'une violence dans l'insulte qui avait rarement, même jamais, été atteinte devant une Assemblée générale. Hein, venir cracher sur l'ONU à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, ça n'avait jamais été fait. Netanyahou l'a fait. On pourra lui faire une statue du plus grand cracheur de l'histoire. Voilà pour ce sujet-là, qui est important, mais on va déboucher sur autre chose. Vous allez voir, je vais vous faire écouter quelques mots du nouveau ministre des Affaires étrangères de la France, qui s'appelle M. Barrot, fils de son père, donc élu de la Haute-Loire et membre du MoDem, si je crois, et qui donc fait partie du gouvernement Barnier.
Le défi de la paix. Nous vivons dans une époque dans laquelle surgissent des crises géopolitiques d'une exceptionnelle gravité. Jamais l'ordre international fondé sur le droit, dont la France a été le grand architecte, n'est soumis à des vents aussi violents qui veulent l'abattre pour lui substituer un ordre international fondé sur la force. En Ukraine, au Proche-Orient, en Haïti, dans la région des Grands Lacs, en mer de Chine, ce ministère défendra corps et âme le droit international au service d'une paix juste et durable.
Alors là, c'est un petit chef-d'œuvre, ces propos de M. Barrot, puisqu'en fait, on pourrait le considérer, encore que le propos soit beaucoup plus court, comme un descendant direct de George Orwell, qui, dans 1984, écrit « Le mensonge, c'est la vérité, la justice, c'est l'injustice, la paix, c'est la guerre ». C'est-à-dire, on peut inverser la totalité de son discours et dire quand il parle de paix, il parle de guerre, et quand il parle des endroits où il veut intervenir pour faire la paix, il parle des endroits où la France est en train de faire la guerre ou d'y contribuer. Voilà, alors ça donne assez une indication claire sur la mission que M. Barrot a reçue de M. Macron, puisqu'il ne faut pas se faire la moindre illusion, disons, sur la suite des événements. La politique étrangère sera décidée à l'Élysée et M. Barrot sera simplement le porte-parole de M. Macron. C'est rien d'autre que ça. M. Barnier s'occupera de faire de l'intendance, il s'occupera de la cuisine. Ça, c'est tout à fait clair. Ça va avoir une conséquence tout à fait étonnante. Parce qu'on a su depuis que le prochain sommet France-Afrique, vous savez, c'est très à la mode, les sommets quelque chose Afrique, Chine-Afrique, Russie-Afrique, etc. Le prochain sommet France-Afrique aura lieu, mais vous n'allez pas le deviner, aura lieu au Kenya en 2026. Alors qu'est-ce qu'on a à faire au Kenya ? Alors le Kenya, on se souvient, c'est une ancienne colonie britannique, on n'y a jamais parlé français, puisque ce n'était pas une colonie française, la France n'y a pas d'intérêt particulier. Qu'est-ce que va aller faire une réunion de la France-Afrique au Kenya ? C'est d'une part une reconnaissance du fait que la France-Afrique, elle est clopinante et elle a plutôt tendance à boiter, parce qu'on peut chercher aujourd'hui les pays de l'ancienne France-Afrique qui seraient contents d'accueillir une nouvelle réunion de sommet France-Afrique. Parce qu'on exclut évidemment les trois pays du Sahel, Mali, donc Burkina Faso et Niger. On exclut certainement le Gabon, on exclut le Bénin qui se tâte, mais enfin qui a envie de passer de l'autre côté. Le Togo, ça a l'air assez clair maintenant. Le Tchad se pose des questions. Il n'y a plus aucun pays ex colonies françaises qui soient contents, qui seraient contents d'accueillir un sommet France-Afrique. Ça, c'est mal vu. C'est mal vu par les populations et donc les chefs d'État font attention à ce qu'ils font. Le seul qui reste encore candidat, mais il est en situation difficile, c'est Alassane Ouattara qui parle moins fort parce qu'il a bien senti qu'il devenait un peu minoritaire dans le camp de la France-Afrique. Et donc, où va le sommet de la France-Afrique? Il va dans un pays où il n'aurait jamais dû se tenir, au Kenya. Alors, le choix du Kenya est extraordinairement simple et révélateur. C'est-à-dire, il faut savoir que le président du Kenya, le fameux monsieur Ruto, est considéré à Washington, parce que c'est là que s'est pris la décision, le sommet France-Afrique se fera au Kenya, parce que Washington et monsieur Biden ont décidé que c'était comme ça. Et monsieur Macron et monsieur Barrot vont obéir. Voilà, c'est tout à fait clair là-dessus. Parce que monsieur Ruto est l'homme de la situation pour les intérêts de l'Empire américain sur le continent africain. Il le fait très volontairement, on lui envoie de l'argent, on lui demande de rendre des services, il rend des services. Alors je rappelle, on l'a déjà cité au cours de précédentes émissions, M. Ruto a été chargé d'envoyer sa police et sa gendarmerie en Haïti pour faire taire les Haïtiens, qui voudraient bien avoir un gouvernement propre et pas être soumis aux pressions des puissances occidentales et des États-Unis en particulier. Bon. Monsieur Ruto envoie donc sa milice, enfin sa gendarmerie officielle et sa police, payée par un gros chèque des États-Unis pour faire la police dans les rues d'Haïti. Et ils ne le font pas facilement. Bon. Donc voilà à quoi sert ce monsieur. C'est un larbin de Washington, c'est un serviteur de Washington, et c'est là que la France va tenir son prochain sommet France-Afrique. J'allais dire, la France est tombée bien bas, mais c'est très révélateur de ce que c'est que le macronisme. Le macronisme, c'est une répétition francisée, parisienne, des décisions prises à Washington. Et là, ça devient limpide. On en verra d'autres, mais c'est très important que sur un cas pareil, on soit conscient de ce qui se passe dans nos coulisses. Voilà, j'en dis pas plus sur la France, mais ça m'amène à parler un petit peu de l'Union européenne. Car jusqu'à nouvel ordre, et là, vous le savez, la France est membre de l'Union européenne. Or, il se trouve que dans les dernières semaines, Mme Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, je rappelle que la Commission n'a formellement pas le pouvoir, c'est un organe d'exécution des décisions des gouvernements prises en Conseil des ministres, donc par les gouvernements rassemblés. Bon, mais Mme von der Leyen se comporte, et on la laisse se comporter, comme le chef d'un État européen qui n'existe pas sur le papier. Il n'y a pas d'État européen, il y a une union de pays européens souverains. Mais ça, elle a tendance à l'oublier parce qu'elle avance son agenda, son programme, qui est de dire qu'il y a une espèce d'État européen en cours de constitution. Et elle s'y emploie. Elle s'y emploie puisque une fois qu'elle a été approuvée comme renouvelée à son poste de présidente de la Commission, elle a commencé à mettre en place son exécutif, son équipe, c'est-à-dire ce qu'on va vous présenter à vous dans la presse comme le gouvernement de l'Europe, avec des ministres. Et là, ça devient très très intéressant de savoir qui elle a choisi. Elle a choisi comme ministre des gens dont vous n'avez jamais entendu parler. Et le premier qu'elle a choisi, c'est le représentant pour la politique étrangère. Donc je mets le mot entre guillemets, ben c'est pas ça. Hein, c'est son adjoint chargé des questions de politique étrangère, mais on va vous le présenter comme le ministre des Affaires étrangères de l'Europe. Poste qu'occupait M. Borrell jusqu'à il y a quelques jours. Bon. M. Borrell est remplacé par un monsieur dont vous n'avez jamais entendu parler le nom, qui s'appelle Kaja Kallas. Qui c'est ce monsieur? Ben, M. Kaja Kallas a été Premier ministre du gouvernement d'Estonie. Alors l'Estonie, c'est un des trois pays baltes, c'est celui le plus au nord, qui est le plus proche de la Finlande, où on parle une langue qui ressemble assez au finlandais en particulier. Alors c'est un pays de 2 millions d'habitants, très très pauvre, qui est russophobe d'une façon maladive. Et donc, en fait, M. Kallas est très représentatif des intérêts des États-Unis sur le continent européen. Donc, c'est lui le ministre des Affaires étrangères de Mme Ursula von der Leyen. Et puis, elle a nommé, alors ça c'est nouveau, un autre personnage comme responsable de la défense. Alors, on n'est pas, l'Union européenne, c'est pas un pays, c'est pas un État, mais Mme von der Leyen fait comme si, c'est-à-dire elle a déjà un ministre des Affaires étrangères, avec les guillemets. Elle a maintenant un ministre de la Défense, poste qui n'existait pas. Et ce ministre de la Défense, alors je mets toujours les guillemets, mais vous les remettez, est aussi russophobe que son voisin M. Kallas, et c'est l'ancien Premier ministre de la Lituanie, le troisième des États baltes, celui du milieu de la Lettonie n'a envoyé personne. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a des pays minuscules, pauvres, qui sont tenus à bout de bras par Bruxelles et par la Commission européenne et par les intérêts financiers allemands, etc., à qui on dit « vous faites ça parce que notre politique, c'est de faire croire au monde entier, et y compris à tous les citoyens des pays membres de l'Union européenne, qu'il y a un ministre de la Défense et un ministre des Affaires étrangères ». Ça veut dire, citoyens français, écoutez-moi bien, qu'on va vous faire croire qu'il y a un monsieur, ce monsieur Kallas estonien, ce monsieur Kubilius lituanien, qui décide de la politique de notre pays, de la politique étrangère et de la politique militaire de notre pays. Alors, mettez-vous bien ça dans la tête. Vous avez élu des députés. On a formé un gouvernement. Mais rendez-vous bien compte, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus maintenant à Bruxelles une personne qui s'appelle Madame von der Leyen qui dit « mais moi j'ai un ministre de la Défense, moi j'ai un ministre des Affaires étrangères et moi je parle au nom des 27, donc je parle au nom des 67 millions de citoyens français. Taisez-vous, vous pouvez voter tout ce que vous voulez, vous pouvez parlementer tout ce que vous voulez, vous pouvez changer de gouvernement, de ministre et tout. Le pouvoir c'est moi qui l'ai. » Alors tant qu'on la laisse dire ça, ce qui est le contraire des textes que nous avons signés, que nous avons ratifiés par référendum. Tant qu'on la laisse dire ça, elle continue de le dire, puisqu'elle est là pour ça, et qu'elle est là pour ça parce que les États-Unis lui ont dit de faire ce travail-là. Ce n'est pas elle qui a inventé tout ça. Elle est là pour faire appliquer une politique voulue par les États-Unis sur le continent européen. Ça évite aux États-Unis de le faire eux-mêmes. Ils ont une déléguée, qui s'appelle Ursula von der Leyen, qui est là pour faire appliquer leur politique. Ça va beaucoup plus loin que ça. Le fait d'avoir un ministre, vous enlevez les guillemets, bien entendu, le ministre de la Défense, ben il commence à dire au ministre de la Défense des différents pays, donc il va le dire à notre monsieur Le Cornu qui a été reconduit à son poste, il va lui dire « je veux ceci ou je veux cela, et je veux que vous augmentiez vos budgets militaires, je veux », comme s'il en avait le pouvoir de dire « je veux ». Mais il ne se gêne pas pour le dire, il l'écrit « je veux que vous augmentiez votre budget militaire. Je veux que nous ayons ensemble, que nous construisions une industrie européenne de la défense. » C'est-à-dire qu'on puisse fabriquer du matériel pour l'envoyer en Ukraine. Parce qu'il est bien clair que la position du ministre de la Défense, de Mme von der Leyen, veut continuer la guerre en Ukraine. Et donc ça veut dire « citoyens français, si vous acceptez ce discours, mettez-vous bien ça dans la tête, on vous a déjà annoncé que vous alliez payer plus pour faire la guerre en Ukraine. » Alors ça va rentrer dans un emballage cadeau qu'on vous prépare pendant quelques semaines, disant « il faut augmenter les impôts ». Mais quand on vous dira « il faut augmenter les impôts », on ne vous dira pas que c'est parce que M. Kubilius a dit qu'il fallait envoyer des armes en Ukraine et qu'il fallait continuer les combats. On vous dira « les caisses sont vides, on est endettés, etc. » et on noiera le poisson. Mais en fait, quand il faudra, dans ce qu'on appelle les arbitrages budgétaires, dire ben « là, on a de l'argent, mais pas tout », sur quoi on coupe ? On va couper sur le budget des allocations familiales, on va couper sur le budget de l'aménagement urbain, on va couper sur les salaires des professeurs d'éducation nationale, mais on ne va pas couper sur le budget militaire qui sera envoyé en Ukraine, parce que le ministre, M. Kubilius, aura dit qu'il faut faire ça, et on obéira. C'est là qu'est la limite du jeu, c'est-à-dire que dès l'instant où un gouvernement national comme le nôtre accepte que les décisions principales d'orientation financière soient prises par Mme von der Leyen et son équipe, ce gouvernement, notre président, ne sert plus à grand-chose si ce n'est à faire passer la politique qui n'est pas celle que les citoyens français ont décidée. C'est bien de se rendre compte, parce qu'on a le budget, la douloureuse, comme on dit, va arriver dans quelques jours, mais on ne vous dira pas qu'on peut à la rigueur déroger à des budgets sociaux, on peut continuer à mal payer les enseignants, les magistrats, etc., mais on ne vous dira pas qu'il faut de toute façon continuer à envoyer des armes en Ukraine. Alors, bon, pour l'Ukraine, puisque ça ouvre la porte à ce sujet-là, quelques mots. Quelques mots, puisque, en fait, ce qu'on sait Alors là, il y a aussi une difficulté à avoir de l'information. Ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, les opérations de l'armée russe continuent à avoir beaucoup de succès, c'est-à-dire à la fois dans la zone de Koursk, dans la petite tentative d'intervention sur le territoire russe, qu'il y a quelques attaques encore des Ukrainiens sur le territoire russe, qui peuvent toucher des dépôts de munitions, des choses comme ça, mais qu'en gros, militairement, la progression de l'armée russe et la progression sur le Donbass est très très importante, et qu'il est clair aujourd'hui que militairement l'Ukraine est battue, c'est tout à fait clair, mais on va continuer à se battre. Et on va continuer à se battre, ça veut dire qu'aujourd'hui les décisions et l'organisation de la guerre en Ukraine sont prises par des officiels de l'OTAN, et on finira par savoir, alors c'est écrit ici et là dans différents endroits, mais on finira par savoir qu'à tel endroit, il y a 3 pilotes français qui ont été tués dans une frappe russe. On continuera à apprendre que il y a des officiers français qui sont tombés au combat, etc. On continuera à avoir la confirmation que ce n'est plus le gouvernement ukrainien qui est totalement démuni de ses fonctions, c'est l'OTAN qui mène la guerre directement sur le territoire ukrainien contre la Russie. Ça, tout le monde le sait, enfin tous les observateurs militaires le savent, même si on ne vous le dit pas, ça a une conséquence très concrète. La conséquence très concrète, elle est la suivante. Elle est la suivante, c'est qu'elle a amené le président de la Fédération de Russie à corriger la politique nucléaire de la Russie. Alors la politique nucléaire de la Russie, c'était de dire « Je n'utiliserai jamais les armes nucléaires contre une autre puissance nucléaire, le premier, mais je me réserve la possibilité et je l'ai ». Techniquement, je me suis donné les moyens de l'avoir, de riposter à une attaque nucléaire par un autre pays nucléaire. Ça fait partie de la stratégie de la dissuasion et les choses étaient parfaitement claires. Du fait de ce qui se passe et des enseignements de la situation ukrainienne, du fait de cette situation, la doctrine a été retouchée sur un point d'extrême importance. Elle a été retouchée sur le fait que ce qui se passe en Ukraine, c'est-à-dire que, et ça, les soldats russes, quand ils avancent sur le terrain, ils trouvent des traces, ils trouvent des corps d'officiers, ils trouvent du matériel de l'OTAN, ils captent des communications en anglais entre des officiers américains, des officiers anglais, etc. Donc, ils ont la preuve, effectivement, que c'est l'OTAN qui conduit la guerre en Ukraine. Et donc, à partir de ce moment-là, la Russie dit, par la voix de son président, ma doctrine nucléaire consiste à dire « je me réserve la possibilité de riposter avec l'arme atomique à une puissance atomique qui m'attaque ». Il l'a élargi et il dit « dès l'instant où un pays qui m'attaque le fait en tant que porte-parole ou adjoint ou délégué d'une puissance nucléaire, je considère que c'est la puissance nucléaire qui a pris cette décision ». Ce qui veut dire que dès l'instant où, par exemple, la Lituanie de M. Kubilius, ministre de la Défense de Ursula von der Leyen, ferait le geste de dire « j'attaque la Russie hein, », là, il y a une frontière commune, dès l'instant où il le ferait, la Russie dirait « je considère qu'en fait, vous l'avez fait en tant que membre de l'OTAN, donc je suis victime d'une attaque des États-Unis, puissance nucléaire, et je réponds à une attaque des nations des États-Unis ». Vous voyez que tout est changé. Et c'est tellement changé qu'on frémit, au Pentagone quand on entend ça. Ça veut dire que le jeu consistant à dire « Ah, c'est le gouvernement ukrainien qui fait ci, qui fait ça et tout », le jeu consistant à dire « C'est un autre, c'est pas moi », ce jeu-là n'est plus tenable puisque la Russie a dit « Maintenant, c'est terminé. Quand vous agissez sous le patronage de l'OTAN et sous le patronage des États-Unis, je considère que c'est les États-Unis qui sont responsables ». Alors, cette petite nuance, qui est plus qu'une nuance, c'est une nuance consistant à dire l'adjoint, celui qui rend service, le tueur qui est mis en service par les États-Unis et par l'OTAN, je considère que c'est un tueur stipendié, mais en fait, je considère que la décision a été prise aux États-Unis. Et c'est tout à fait exact, puisqu'il suffit de savoir qui prend les décisions dans l'état-major de Kiev aujourd'hui, ce n'est plus les Ukrainiens. Ou alors les Ukrainiens complètement, enfin, dociles et bien encadrés. voilà ce que c'était important de situer cette évolution. Et je vais finir par parler du Liban, parce que je ne pouvais pas ne pas en parler. Ce qui s'est passé au Liban pendant la dernière quinzaine, ça met en cause gravement l'ONU elle-même. D'abord par les propos qu'a tenu M. Netanyahou, mais aussi par le fait qu'il y a au Liban une force de l'ONU, une force intérimaire qu'on appelle la FINUL, Force intérimaire des Nations Unies au Liban, FINUL, qui est là depuis 1978 et qui est destinée à éviter que Israël envahisse un pays indépendant et souverain qui s'appelle le Liban. Il y a aujourd'hui, donc dans la partie sud du Liban, 10 000 hommes avec des casques bleus qui sont là pour éviter une invasion de l'armée israélienne. Bon. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire ? Alors les dernières nouvelles sont très très claires. La FINUL va se retirer, la force de paix de l'ONU va laisser l'armée israélienne rentrer sur le territoire libanais. L'armée libanaise officielle, il y a une armée libanaise qui est faible, on le connaît, etc., va faire la même chose. C'est-à-dire que dans les jours qui viennent, on va ouvrir la frontière et on va dire à Netanyahou, vas-y, fais passer tes chars. Alors au passage, il y aura des morts, il va détruire des villages, etc., mais on va le laisser rentrer. C'est là que la question de la disparition du Hezbollah, qui était souhaitée, se pose. Alors le Hezbollah n'est pas du tout prêt à disparaître. Nasrallah a déjà été remplacé donc, par Hachem Safieddine, donc la structure est en place, les munitions sont en place, la structure militaire du Hezbollah est en place. Et je rappelle que le Hezbollah, en plus, n'est pas un corps étranger dans le Liban. Le Hezbollah, il y a deux ministres du Hezbollah au gouvernement, et le Hezbollah dans le parlement libanais, qui est un parlement où on est représenté à la proportionnelle, et le plus grand groupe. Donc c'est pas des terroristes qui sont là au milieu du Liban, ce sont des Libanais qui font partie d'un parti politique qui est le mieux représenté au Parlement, avec des ministres et tout. Ce sont des Libanais qui ont pris en charge la défense du Liban, ils l'ont déjà fait, puisque Nasrallah et son équipe, c'est tout à leur honneur, ont quand même par deux fois chassé l'armée israélienne du sud Liban, ce qu'ils ont fait eux-mêmes, parce que l'armée libanaise ne le faisait pas. Et on a admis que c'était ça, puisqu'on les a quand même laissés rentrer au gouvernement. Ils ont des ministres, ils ont des députés. Bon, le Hezbollah, c'est une partie de la société libanaise. Et c'est la partie de la société libanaise qui a décidé de ne pas laisser le pays envahir par Israël et les sionistes. C'est ça qu'il faut rappeler. Et pour ça, l'occasion de rappeler aussi que ce Hezbollah donc, qui a sauvé le Liban de l'invasion à deux reprises, la dernière étant en 2006, ce Hezbollah non seulement a des capacités militaires de défense de son territoire, mais a aussi des capacités plus larges militaires, puisqu'il est aussi intervenu pour éliminer du Liban et surtout de Syrie les terroristes islamistes, le Daesh, Al-Nusra, etc. Donc la formation militaire des troupes du Hezbollah, elle est très très forte, mais en même temps la formation politique, elle est forte aussi, parce qu'ils ont des ministres, ils ont des députés, ils sont libanais, mais comme tout Libanais qui est né là, simplement ils représentent les Libanais qui se battent pour la souveraineté du Liban. Et c'est en ça qui dérange. Mais ça, on ne vous le dira pas. On dira, Nasrallah, terroriste, etc. Non, non. Alors, si les États-Unis, parce que les États-Unis, je les cite, ont mis de tels moyens à la disposition d'Israël pour qu'il élimine le Hezbollah, c'est que les États-Unis savent très très bien qu'il y a un réel danger, puisque la résistance pro-palestinienne, donc le Hamas, les Houthis, le Hezbollah irakien maintenant vivant, et le Hezbollah fait partie d'un front de résistance qui est coordonné désormais, qui a un bureau permanent à Bagdad, qui a des relations directes avec l'Iran. Donc on a là un groupe militaire constitué, et si les États-Unis donnent de tels moyens, et si Netanyahou se permet cette insolence et cette outrecuidance à la tribune de l'Assemblée générale des États-Unis, c'est qu'il sait que la politique des États-Unis va dans ce sens. Et j'insiste là-dessus parce que, à la fois par rapport à l'affaire des pagers ou beepers, etc., et l'affaire des walkie-talkies, et à la fois par rapport à l'attaque du siège du Hezbollah et à l'assassinat de Nasrallah, la position des États-Unis est d'une hypocrisie monumentale. Je dis monumental parce que dire « Ah, on a appris qu'eux, on nous avait pas informés, etc. Ben, » qui aujourd'hui peut croire que les États-Unis, qui ont des soldats en Syrie, qui ont des soldats en Jordanie, qui ont des soldats partout dans la région, qui s'appuient aussi sur les bases militaires anglaises que l'Angleterre a gardées à Chypre, qui ont des aéroports avec des forces énormes sur le sol de la Jordanie, qui peut croire que les États-Unis découvrent qu'un beau matin, M. Netanyahu a décidé de bombarder quelque chose? Non seulement c'est de l'hypocrisie, mais ça veut dire, c'est lui qui l'a fait, c'est pas moi. Hein. Vous savez, c'est le coup. On a pris le coupable de la main dans le sac et on dit, mais celui qui lui a dit de faire ça, il a parlé de dire, je suis innocent. Les États-Unis ne sont innocents de rien et tout ce qui se passe leur est dû. Leur est dû parce qu'il y a toujours un feu vert et il faut bien interpréter le sens de la visite et de l'outrecuidance de M. Netanyahou à Washington, à New York la semaine dernière. Il est venu pour mettre au point avec les États-Unis les opérations qui allaient suivre. Et donc l'assassinat de Nasrallah a été programmé à Washington et à New York par les États-Unis qui ont donné à Israël les bombes spécifiques qui sont fabriqués aux États-Unis, le type d'avion qui les porte et la couverture en termes d'échange de données, couverture probablement laser, pour viser le quartier général du Hezbollah. Tout ça, c'est les États-Unis. Armes des États-Unis, système de guidage des États-Unis, avions peut-être des États-Unis, on n'en est pas sûr. Il n'existe pas aujourd'hui d'image montrant le fameux F-15 lançant les bombes perforantes sur le siège. On n'en a pas vu. On n'en a pas vu. Et donc, tant qu'il n'y aura pas une photo de ces F-15 en train de bombarder le siège du Hezbollah, on pourra se demander si c'est vraiment un F-15 israélien qui les a envoyés. Le doute est totalement permis, mais on est dans cette narration très simple. Netanyahou est un peu fou, on le laisse un peu faire, tantôt on lui dit calme-toi, et en fait non. Il est en train d'exécuter des décisions sur lesquelles il a l'accord préalable, les moyens matériels, les milliards d'argent, les moyens militaires, bombes spéciales, avions spéciaux, pour faire le massacre qu'il est en train de faire. Voilà les enseignements qu'on peut tirer de cette semaine folle qui, hélas, aura beaucoup, beaucoup de suites, puisque donc la finule va se retirer un peu de la frontière entre le Liban et Israël. L'armée libanaise va faire de même et on sera dans le cas d'une guerre d'agression, c'est-à-dire que les tanks de Netanyahou et les forces spéciales de Netanyahou vont se retrouver sur le sol du Liban, pays souverain, envahi par un autre. Et là, on verra bien si l'ONU se réveille en disant « Mais qu'est-ce que c'est que cet acte d'agression ?» on va voir. Donc l'ONU joue, à mon avis, son avenir dans l'état de fonctionnement où elle est, dans les statuts où elle a, et c'est en train de se réaliser, ça va se réaliser dans les semaines qui viennent qui sont décisives, puisque d'une part, les États-Unis vont changer de président, quoi qu'il arrive, à partir du 4 novembre jusqu'à la mise en place du nouveau président en janvier, et de toute façon, M. Biden peut faire toutes les horreurs du monde en faisant l'innocent, puisque de toute façon, il n'est pas représenté, et donc on pourra lui imputer tout ce qu'on veut, des milliers de morts en Palestine, des milliers de morts à Gaza, des milliers de morts au Liban, des milliers de morts en Syrie. Il s'en fiche, M. Biden, c'est terminé. Il n'est plus qu'un tueur sans contrôle. Voilà ce que sont les États-Unis d'aujourd'hui, voilà ce qui méritait d'être dit. Je remercie Sidi de m'avoir prêté la main pour le faire. Bonne semaine à tous.